Bene, possiamo iniziare. Inizio la seconda sessione di questo nostro convegno su dinamiche della religione e ho l'onore di presentare oggi Roger Puivet, che ringrazio di cuore per aver accettato di venire a parlare con un contributo che verterà sul tema l'umiltà intellettuale, la fede e l'epistemologia. Il professore parlerà in francese e trovate dei testi in traduzione italiana per chi volesse seguire in italiano. Il professor Puivet è professore presso il Dipartimento di Filosofia della Université de Lorraine e direttore del Laboratoire d'Histoire de Sciences et de Philosophie. Nel 2014 è stato visiting professor presso il Dipartimento di Filosofia della St. Louis University. Le sue aree di interesse vertono dall'estetica alla filosofia dell'arte, all'epistemologia della credenza, alla filosofia della religione, ancora alla metafisica e alla filosofia polacca con la scuola di Leopoli di Varsavia e del Circolo di Cracovia. Ha scritto numerosissimi testi e moltissime sono le pubblicazioni. Ricordo qui uno dei suoi testi principali, Après Wittgenstein Saint Thomas, che è stato tradotto, cioè nella sua prima edizione francese nel 97, trovate anche nel banco libri la sua ultima edizione, riedizione per Lavran del 2014, ed è stato tradotto questo testo anche in inglese nel 2008 per la St. Augustine Press, After Wittgenstein Saint Thomas. Cito qua anche un suo ulteriore testo del 2013, Epistemologie de croyances religieuses, che trovate anche questo sotto nel banco testi e che credo sia da tenere a fuoco nella sua esposizione che ascolteremo. Ringrazio di nuovo e lascio dunque a lei la parola.
Merci, je suis très honoré de l'invitation, je suis désolé de parler français. Heureusement, vous avez mon texte, sinon ce serait terrible. Je vais simplement lire mon texte que je fais d'habitude jamais, pour que vous puissiez suivre aisément sur le texte italien. Le credo des chrétiens affirme que Dieu est créateur, Père, Fils et Saint-Esprit, que le Seigneur est né de la Vierge Marie, qu'il est mort et ressuscité, que les morts ressusciteront. Ce sont là des vérités révélées. Mais un sceptique pourrait faire ce reproche à un chrétien. Quel orgueil de votre part! Vous pensez disposer par révélation de vérités absolues, mais sans aucun effort pour justifier vos croyances. La vérité vous est servie sur un plateau grâce à une révélation. Comment pouvez-vous en être certain? Prétendre détenir la vérité sans justification, par communication divine spéciale, quelle arrogance! Vos croyances sont à la fois subjectives et prétentieuses. Avec un peu d'humilité intellectuelle, vous reconnaîtrez n'être détenteur d'aucune vérité. En quoi consisterait alors l'arrogance du chrétien? Il ne dispose d'aucune raison convaincante pour ses croyances. Or, l'humilité intellectuelle consiste à présenter des raisons ou des justifications partageables. C'est ce que font les scientifiques. Il existe pour eux une procédure de contrôle par les pairs. Les raisons avancées sont examinées et critiquées, les expériences refaites, les présupposés examinés. Tout le contraire de l'orgueilleux et arrogant chrétien, affirmant avoir reçu la grâce et la vérité, alors qu'il ne peut avancer aucune raison en leur faveur. L'accusation de naïveté, voire de bêtise épistémique, souvent faite par les athées, ne met pas en cause la bonne foi du croyant, mais sa prétention de détenir des vérités reçues par révélation alors qu'il ne peut les justifier face à ceux qui ne croient pas, ni rien leur démontrer, semble moralement inacceptable. C'est pourquoi le reproche est celui d'orgueil et d'arrogance, et non pas simplement d'erreur ou de manque de sérieux intellectuel. Pourtant, j'entends défendre, je vais essayer de défendre le chrétien en montrant comment l'humilité est compatible avec l'idée d'une vérité révélée, comment la certitude de la foi n'est en rien de l'orgueil ou de l'arrogance. Hugues de Saint-Victor décrit la foi comme un milieu entre la science et l'opinion. La science est présentée comme la situation intellectuelle dans laquelle l'erreur n'est pas possible. Par exemple, dans l'appréhension intuitive que le tout est plus grand que la partie, ou quand une démonstration valide justifie la certitude d'une conclusion. Cependant, la croyance n'est pas la connaissance, disent beaucoup de philosophes, parce que l'erreur y reste possible. Quand le risque de se tromper persiste, non seulement le doute est permis, mais il est une obligation intellectuelle. Saint Thomas dit que, je cite, « ce qui est proposé communément à tous les hommes comme objet de foi, c'est ce qui ne fait pas communément l'objet du savoir. » Les vérités de foi ne sont en effet ni évidentes par elles-mêmes, ni démontrées ou démontrables. Cependant, la foi est certaine, explique Thomas, alors que l'opinion, accompagnée d'un doute, manque de conviction. Pour le croyant, que Jésus soit le Fils de Dieu n'est pas probablement vrai, comme l'est le bulletin météorologique du prochain week-end, qu'on prend avec un peu de distance épistémique. Un chrétien ne pense pas non plus que Dieu est peut-être ressuscité d'entre les morts, mais que cela reste cependant à confirmer. Le croyant ne fait pas non plus comme si les articles de foi étaient vrais, en simulant la certitude, tout en sachant qu'ils ne le sont peut-être pas, voire en sachant qu'ils ne le sont pas. Saint Thomas décrit la foi comme un acte de croyance dans lequel l'assentiment est total, on peut parler de certitude, comme dans le cas de la science, et pourtant le croyant ne sait pas. Il ne dispose ni d'une évidence, ni d'une démonstration. Si l'orgueil spirituel est défini comme une certitude indifférente à l'absence de données probantes, intuitives ou démonstratives, alors la foi chrétienne en serait une illustration. Le croyant est certain alors même qu'il ne sait pas. Cette critique de l'orgueil et de l'arrogance du chrétien peut faire appel à deux conceptions. L'une consiste à définir la rationalité par le contrôle exercé sur la légitimité de nos croyances. L'autre, inspirée de Kant, expulse la foi du domaine de la théorie pour en faire un élément de la vie morale. Elles ont en commun d'en appeler à la modestie intellectuelle. À mon sens, le contrôle de la légitimité de nos croyances ou la modestie kantienne ne sont toutefois pas des attitudes d'humilité intellectuelle. Mais je vais d'abord expliquer en quoi consiste, sous ces deux formes, cette modestie épistémologique. La thèse qu'une croyance doit être justifiée par des raisons probantes, au sens large de preuves, qui rendent évident ce que l'on croit, est fréquente, cette thèse est fréquente chez les philosophes modernes. À cette exigence, n'est-il pas possible de donner une signification morale? Ne rien croire sans données probantes, tel serait le comportement intellectuel moralement correct. Il serait mauvais, toujours, partout, et pour quiconque de croire quoi que ce soit sur la base d'une évidence insuffisante. Que peut vouloir dire mauvais dans cette formule ? Premièrement, un être rationnel doit impérativement renoncer à toute croyance non justifiée. Et justifier une croyance, ce serait donner des raisons convaincantes pour tout être rationnel. Deuxièmement, ne pas soumettre ses croyances au contrôle de qualité épistémique, ce serait se rendre coupable d'un péché épistémologique. Lequel péché ne manquerait pas à terme d'avoir des conséquences pratiques. Par exemple, la croyance injustifiée d'un armateur qu'un navire est fiable pourrait être suivie d'un naufrage et de la mort des passagers ou d'une marée noire. Le projet cartésien d'entreprendre une fois en sa vie de se défaire de toute opinion reçue jusqu'alors, de commencer tout dès les fondements, afin d'établir quelque chose de ferme et de constant, présuppose l'idée que la justification de nos croyances résulte d'un effort d'examen de notre droit de croire. Ce projet concerne certes les sciences et non les croyances religieuses. Mais il n'en est pas moins à l'origine de deux idées typiquement modernes. Premièrement, notre rationalité épistémique consiste en un examen de la légitimité de nos croyances. Deuxièmement, les critères de cet examen sont établis par le philosophe. La détermination de la bonne méthode pour connaître est l'activité épistémologique fondamentale. En effet, on ne part pas de la vérité qui serait alors donnée. En revanche, on y parvient, mais seulement à l'issue d'un processus de contrôle et d'examen épistémique. La modestie intellectuelle consiste à n'accepter aucune croyance sans raison de la considérer comme fondée selon des règles épistémiques. La version kantienne de la modestie épistémique consiste à affirmer que nous sommes irrémédiablement ignorants des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Une telle théorie des limites de la connaissance implique que les croyances chrétiennes n'ont aucune pertinence théorique. Elles ont un rôle exclusivement moral, non cognitif. Nous ne pouvons prouver l'existence d'un être dont la nature, par principe, nous échappe, puisqu'elle est au-delà d'expériences possibles. La foi commence alors là où la connaissance s'arrête. La modestie kantienne est incompatible avec la foi comme certitude au sujet de l'existence de Dieu ou d'affirmation sur la création du monde et le devenir de l'humanité. Certes, pour un kantien, une idée de Dieu joue un rôle dans la réalisation de nos devoirs moraux. C'est pourquoi il est moralement nécessaire d'admettre l'existence de Dieu. Moralement nécessaire signifie alors que ce n'est pas cognitivement nécessaire, ni même légitime. L'idée de Dieu fonde la synthèse de la vertu et du bonheur, et elle conduit ainsi à l'idée d'un triomphe final de la moralité. Nous ferions comme si Dieu existait et assurait la victoire de la loi morale. La philosophie de Kant fait ainsi jouer un rôle fictionnel plutôt que théorique au concept de Dieu et d'âme immortelle. En renonçant à chercher leur signification dans une révélation divine, que les limites épistémologiques de la connaissance rendent impossible, nous pouvons récupérer ces concepts. Parce qu'ils sont sur le mode du « comme si », ils ont alors un nouveau statut, non dommageable à la modestie épistémique. Les croyances sont suspendues à leur justification. Si l'évidence en leur faveur est faible, mon degré de croyance reste faible lui aussi. Si l'expérience n'est pas possible, le modeste renonce à toute affirmation et se contente, pour les idées religieuses, d'un rôle pratique. Le raisonnement modeste consiste à dire « Même s'il y a une révélation divine, je n'ai pas le droit d'y croire. Je n'ai aucune justification pour y croire et les notions de Dieu, de création, de providence sont bien au-dessus de ce que je peux réellement comprendre. » Dans ces deux versions, évidentialiste et kantienne, de la justification épistémique, la modestie intellectuelle est un renoncement. Renoncer à nos croyances si elles vont au-delà de la justification effective, l'évidence, ou si elles supposent, ces croyances, la connaissance des choses en elles-mêmes. Je crois que la modestie intellectuelle ne doit pourtant pas être confondue avec l'humilité intellectuelle. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. L'humilité est une vertu, c'est-à-dire une disposition à penser, à ressentir et à agir par laquelle nous réalisons au mieux notre nature. Mais cette vertu est-elle morale ou intellectuelle? Une vertu morale est dirigée vers le bien. Elle perfectionne la volonté. Une vertu intellectuelle est dirigée vers la vérité et elle perfectionne l'intellect. Or, l'excellence intellectuelle s'accompagne parfois d'attitudes morales déplorables ou même répugnantes. Une vie morale exemplaire se remarque quelquefois chez quelqu'un qui est ou semble être intellectuellement limité. C'est pourquoi les prétendues vertus intellectuelles ne sont peut-être que des habitus. Elles nous font exceller intellectuellement, certes, mais sans garantir notre perfectionnement moral. Toutefois, la division radicale entre intellect et volonté doit être nuancée. Premièrement, comment la vertu morale pourrait-elle vraiment s'accommoder de défauts intellectuels graves, de la bêtise, empêchant de juger correctement et justement? Même si l'imbécile agit bien, ce n'est que par hasard, puisqu'il ne juge pas bien. Ou alors, de nouveau, il juge, mais par hasard. Il juge bien, mais par hasard. Deuxièmement, il ne faut pas confondre vertu intellectuelle et simple habileté ou compétence intellectuelle. Une habileté ne nous perfectionne pas, même si elle peut nous assurer l'admiration et la reconnaissance sociale. Troisièmement, et c'est ce qui importe le plus, je cite saint Thomas, « Le vrai est un certain bien de l'intellect qui relève aussi de la volonté pour autant que l'homme veut comprendre ce qui est vrai. » Vouloir comprendre, c'est être attiré par le vrai. Être attiré, c'est désirer la vérité, l'aimer. C'est pourquoi l'humilité intellectuelle, comprise comme une vertu, se distingue radicalement de l'attitude modeste, qui est une forme d'abstinence intellectuelle s'opposant au désir de vérité considéré comme risqué. Le modeste a peur de se tromper et peur qu'on lui fasse le reproche de s'être trompé en prétendant à tort savoir. Ainsi, il examine son droit de croire en fonction de règles impersonnelles, applicables unilatéralement et parfois indépendamment de tout domaine et contexte. Le modeste Kantien limite ses ambitions pour être sûr de ne pas aller au-delà de l'expérience possible. L'humilité intellectuelle, en revanche, se tourne vers la vérité comme l'aiguille de la boussole vers le nord. Cependant, dans son désir de la vérité, celui qui fait preuve d'humilité ne se satisfait pas de briller faussement ou de paraître savoir. Il veut la vérité, mais n'a que faire d'impressionner les autres. C'est pourquoi l'humilité intellectuelle s'oppose à l'orgueil, alors que la modestie, à force de renoncement, peut être vaniteuse. L'humilité consiste à reconnaître la vérité comme ce qui est supérieur et s'impose à nous. La modestie intellectuelle est en revanche l'inquiétude de ce que les autres diront, et elle peut ainsi conduire à renoncer à la vérité même quand elle nous est offerte. Elle pourrait aller jusqu'à dire que la simple notion de vérité doit être abandonnée si elle nous fait courir un risque d'hubris dont la modestie se présente comme l'antidote. Une vertu comprend un aspect émotionnel. Le vertueux ressent en certaines occasions certaines émotions, dont l'amour de la vérité. Ces émotions sont des motivations. La sensibilité à la vérité est une émotion cognitive. L'humilité consiste ainsi à ressentir une émotion dirigée vers la vérité. Cette émotion nous fait préférer la vérité à tout ce qui pourrait nous faire briller aux yeux des autres et paraître admirable. Si l'humilité intellectuelle assure que nous restons aimantés par la vérité et qu'elle est une émotion cognitive, alors l'épistémologie doit s'intéresser aux conditions émotionnelles et personnelles de la connaissance. La confusion entre ce qui est impersonnel et ce qui est objectif est l'une des erreurs les plus fréquentes dans la philosophie moderne. Les critères de la croyance justifiée y sont donnés pour un esprit désincarné, sans émotion et sans personnalité. C'est pour Monsieur Personne que ces critères sont exposés. Et Monsieur Personne, c'est l'ego cartésien, l'entendement humien, le sujet rationnel kantien. Ce sont là des abstractions cognitives. Il nous faut une certaine abnégation philosophique pour nous identifier à ces abstractions. Personnellement, je ne me suis jamais identifié à un ego cartésien. Une épistémologie mettant l'accent sur les vertus ne peut pas se passer d'examiner les situations épistémiques. Qui croit? Dans quelles circonstances? Pourquoi? Quelle est l'attitude intellectuelle adoptée par le croyant? La volonté de vérité est celle d'une personne singulière et non d'un ego ou d'un sujet de la connaissance. Nous n'avons donc pas à opter entre le cognitif, avec des règles abstraites de justification épistémique, et des qualités personnelles à l'œuvre dans des situations précises, comme s'il s'agissait de deux domaines séparés dont l'entrelacement serait un obstacle épistémologique à surmonter. Car dans une situation épistémique particulière, ce qui importe est la vertu intellectuelle à l'œuvre, c'est-à-dire un comportement cognitif approprié et non pas le respect de règles abstraites comme de conduire par ordre sa pensée ou de proportionner le degré de croyance à l'évidence disponible. Dans les situations particulières, l'humilité intellectuelle comme sensibilité au vrai est la meilleure assurance de la rationalité. En revanche, le méthodisme épistémologique, consistant à partir de règles abstraites pour contrôler les croyances, et finalement une fausse conception de la rationalité, conduisant au renoncement sous la forme de la modestie kantienne, voire sous la forme du scepticisme. La modestie kantienne est plutôt de la pusillanimité. Le défaut, la pusillanimité, c'est le défaut de tant se limiter qu'on ne fait pas ce dont on serait pourtant capable. La pusillanimité prend sa source dans la crainte désordonnée d'outrepasser ses capacités. Or, comme le disait Aristote, toute réalité naturelle a une inclination à exercer une activité proportionnée à sa puissance. De même que le présomptueux excède sa capacité en visant des buts trop grands, le pusillanime reste en deçà de cette capacité en refusant d'atteindre ce qui lui est pourtant proportionné ou d'accepter ce qui lui est donné. Dans le Nouveau Testament, le serviteur qui ne fait pas fructifier l'argent confié par le maître est justement puni. La modestie intellectuelle est une assurance excessive au sujet de ses propres limites. Il existe un orgueil du sceptique, trop sûr de lui dans sa dénégation de la simple possibilité de parvenir à la vérité. L'expression de pusillanimité kantienne conviendrait alors mieux encore que celle de modestie kantienne et surtout d'humilité kantienne, qui est, à mon sens, totalement inappropriée. Distinguer de la modestie, l'humilité intellectuelle ne consiste pas à exercer un contrôle épistémologique sur nos croyances ou à limiter a priori nos prétentions cognitives. C'est une sensibilité intellectuelle à la vérité. Sans cette vertu, nous renonçons aux vérités qui importent le plus aux hommes. Nous faisons les modestes intellectuellement, nous imaginons devoir renoncer aux vérités de la foi ou les déconstruire. Nous sommes fiers, parfois, d'un tel renoncement, mais c'est intellectuellement vicieux. Pourtant, rappeler les limites de la connaissance n'est-ce pas indispensable? En particulier, les fous de Dieu prétendent avoir reçu directement de la part du divin des articles de foi. Ils en tirent des préceptes qu'ils cherchent à imposer à toute l'humanité. Cette attitude ne provoque-t-elle pas de grands malheurs? Pogroms, croisades, guerres de religion. Ces croyants ne sont-ils pas avant tout dépourvus d'une indispensable conscience de nos limites cognitives? La modestie kantienne serait alors une attitude intellectuellement saine, celle de la pensée critique, contre le dogmatisme religieux et ses conséquences pratiques délétères. C'est pourquoi un contradicteur ne manquerait pas de dire qu'il est paradoxal, si ce n'est sophistique, d'opposer l'humilité à cette attitude modeste et critique et de présenter l'humilité comme une voie d'accès autorisée à des vérités révélées et absolues. Pour répondre à cette objection, je me propose d'expliquer la différence entre une épistémologie de l'autonomie épistémique et une épistémologie des dons, au sens des dons du Saint-Esprit. L'aide que le Saint-Esprit nous fournit et sans laquelle, effectivement, nous devrions certainement renoncer à parvenir à la vérité. Selon saint Thomas, je cite, la lumière naturelle de notre intelligence n'a qu'une vertu limitée. De là, elle ne peut parvenir qu'à certaines limites déterminées. Donc, l'homme a besoin d'une lumière surnaturelle pour pénétrer au-delà jusqu'à la connaissance de choses qu'il n'est pas capable de connaître par sa lumière naturelle. C'est cette lumière naturelle donnée à l'homme qui s'appelle le don d'intelligence. À mon sens, les vertus ne sont pas séparables des dons. Sans le don d'intelligence, l'humilité consisterait uniquement à reconnaître nos limites intellectuelles, inhérentes à notre nature. Elle serait confondue avec la modestie kantienne. Car nos limites intellectuelles sont tout à fait réelles. En particulier, nous sommes à l'évidence faillibles. Mais on ne peut pas bâtir toute l'épistémologie autour de cette faillibilité. L'épistémologie n'est pas exclusivement destinée à garantir, par une politique intellectuelle de contrôle ou de renoncement à la vérité absolue, la reconnaissance de cette faillibilité. Rien d'orgueilleux dans la prétention à la vérité. L'orgueilleux se suffit à lui-même et ne croit avoir besoin ni des autres, ni de Dieu. L'orgueilleux pense aussi avoir reçu un don, mais il pense que c'est dû à son seul mérite. Au lieu que même l'intelligence est un don. L'humilité d'une personne est une sensibilité à ce qui est meilleur qu'elle, donnée par ce qui lui est supérieur. Être intellectuellement humble, en ayant le sens de la disproportion entre notre lumière naturelle limitée et la vérité que, malgré cette limitation, par la foi, nous appréhendons cependant grâce à un don. L'une des erreurs de l'épistémologie moderne est d'avoir promu un idéal d'autonomie épistémique. Elle se caractérise ainsi. Les seules croyances légitimes résultent de l'exercice des capacités cognitives et de raisonnement d'une personne, indépendamment de tout autre. Cet idéal conduit par exemple à douter que le témoignage soit une source légitime de croyance légitime et de connaissance. Tout au contraire, un philosophe comme Thomas Reed affirme que nous sommes des créatures sociales et que, je cite, « nous devons recevoir la plus grande et la plus importante partie de notre connaissance par le truchement des autres ». Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux dans le domaine de ce qu'on appelle l'épistémologie du témoignage. Cette épistémologie part souvent du constat que la plupart de ces connaissances, de nos connaissances, nous viennent des autres. Et si ce ne sont pas les connaissances elles-mêmes qui nous viennent des autres, ce sont les règles grâce auxquelles nous contrôlons les informations sans lesquelles nous ne parviendrions pas à la connaissance. Des autres, nous apprenons qu'il faut nous méfier et revérifier. C'est encore d'un témoignage que nous apprenons que les témoignages sont trompeurs. Pourtant, l'idéal d'autonomie épistémique a la vie dure, car rompre avec le modèle épistémologique de l'autonomie, ce n'est pas simplement passer de l'individuel au communautaire, comme on se contente parfois de le faire dans certains travaux contemporains, mettant en évidence l'importance de la formation commune des connaissances. Si la vérité nous est donnée, est encore autre chose, nous n'y parvenons que par un don. Je ne parle évidemment pas de la vérité des propositions ordinaires, le chat est sur le tapis, ni des propositions scientifiques, mais des articles de foi, des vérités absolues. Les vérités qui doivent nous importer, parce qu'elles sont décisives pour notre vie. Si notre désir de la vérité ne peut être satisfait que par le don de l'intelligence et le don de la vérité, l'humilité intellectuelle, c'est d'accepter ce double don, de ne pas le refuser au nom de la modestie. C'est pourquoi je parle d'une épistémologie des dons. Les vertus et les dons ne sont pas détachables les uns des autres. Dès lors, L'humilité intellectuelle et le don d'intelligence ne le sont pas non plus. Nous pouvons comprendre les choses de deux façons, explique saint Thomas. Soit que nous parvenions à une connaissance de l'essence de quelque chose, soit que l'on comprenne seulement que rien ne s'oppose à ce que l'on croit. La foi nous place dans la deuxième situation. Nous ne comprenons pas que Dieu est un et trine, par exemple, mais nous savons que rien ne s'oppose à ce que nous le croyions, c'est-à-dire à ce que cette vérité nous soit révélée. Je cite saint Thomas, « De même que par le don de la charité, l'Esprit Saint dispose la volonté de l'homme à se porter directement vers un bien surnaturel, de même, c'est aussi par le don d'intelligence qu'il donne à l'esprit de l'homme de la lumière pour connaître une certaine vérité surnaturelle, celle à laquelle doit tendre la volonté droite. Voilà pourquoi, de même que le don de charité existe chez tous ceux qui ont la grâce sanctifiante, de même aussi le don d'intelligence. » L'humilité intellectuelle consiste ainsi à recevoir l'intelligence comme don sous la forme d'une grâce sanctifiante. L'orgueil intellectuel, en revanche, c'est de croire que nous tirons tout de nous-mêmes, sans rien devoir à personne, ou seulement à une communauté humaine, nos pairs universitaires, un groupe de recherche, ceux qui pratiquent la même philosophie que nous. J'imagine que cette épistémologie des dons sera difficilement acceptée par nombre de philosophes. Pour eux, c'est justifier l'injustifiable, la prétention chrétienne d'avoir reçu des vérités révélées. Affirmer qu'elles sont offertes à ceux qui sont intellectuellement humbles, c'est se donner, à peu de frais épistémiques, le droit de croire en des vérités surnaturelles. Pourtant, je crois qu'en imposant une épistémologie de l'autonomie épistémique à la foi chrétienne, on a rendu la foi irrationnelle. Ou bien on a été conduit à la présenter comme une expérience ineffable. Or, si certaines vérités nous sont données, il serait tout aussi arrogant de prétendre que nous n'en avons pas l'intelligence, même sans en avoir la preuve. Renoncer à comprendre ou refuser de comprendre est une forme d'orgueil si l'intelligence est un don. L'humilité intellectuelle est aussi en jeu s'agissant d'autres vérités, mondaines et non révélées. Car ce ne sont pas seulement des vérités qui nous sont données, mais la faculté de compréhension elle-même. Si l'intelligence est un don, c'est alors pour que nous puissions comprendre, quel que soit ce qui est à comprendre. L'intelligence n'est en rien ce dont nous pourrions nous enorgueillir, car elle n'est pas de notre fait, ni à notre disposition. Elle est un don, gratuit et gracieux, sans lequel la vérité, de la plus banale jusqu'au plus élevé, nous resterait inconnu. Nous pourrions même dire que l'attitude évidentialiste et la modestie kantienne présupposent que nous soyons sûrs de nos capacités de compréhension et donc d'avoir reçu le don d'intelligence. Comme le suggère Reid, l'esprit qui contrôle ou renonce s'en suppose capable et ne doute donc pas tant que cela de lui-même. Il n'est pas non plus si modeste que cela. La confiance que nous avons en nous-mêmes n'est pas de l'hubris. Si nous sommes humbles et reconnaissons alors notre intelligence comme un don, supposant un donateur, le Saint-Esprit. C'est pourquoi qu'un être humain réfléchit et recherche la vérité, dès qu'un être humain réfléchit et recherche la vérité, il est débiteur du Saint-Esprit. Commentant la sixième béatitude, Heureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Saint Thomas précise qu'il ne s'agit pas d'une pureté exclusivement morale, mais aussi d'une pureté intellectuelle. C'est, dit-il, la pureté de l'esprit, purifiée des fantasmes et des erreurs, de telle sorte que ce qui est dit de Dieu ne soit plus reçu par manière d'image corporelle, ni selon des déformations hérétiques. Cette pureté, c'est le don d'intelligence qui la produit. Cette pureté est une vertu intellectuelle. La certitude de foi est le fruit du don d'intelligence qui lui-même fait écho à l'humilité intellectuelle. En effet, sans le don d'intelligence, nous ne pourrions pas adhérer et être certains. On ne peut avoir la foi qu'en excellant rationnellement dans l'appréhension des vérités surnaturelles. Et c'est toujours ce don d'intelligence appliqué dans les questions qui sont à la mesure humaine, le savoir scientifique, le savoir quotidien, qui permet de parvenir à la vérité. Toute compréhension est donc liée à un don, à une grâce. L'humilité intellectuelle est finalement une action de grâce. Reconnaître que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne parviendrions ni à la foi, ni à quelque connaissance que ce soit, même banale et simple. La rationalité humaine est ainsi redéfinie en termes de don, de grâce et de l'instigation du Saint-Esprit. Quelques mots de conclusion. La croyance dans les articles de foi comme expression exemplaire de la rationalité humaine, l'objecteur va dire, mais de qui se moque-t-on ? Vertu, don et fruit de l'Esprit Saint, mais de quelle épistémologie s'agit-il là ? N'est-ce pas du catéchisme plutôt que de l'épistémologie ? Formulé ainsi, il est malaisé de répondre à l'objection. Je reconnais qu'une épistémologie des dons semble mal s'accorder avec ce qu'on entend d'ordinaire par épistémologie. Mais j'ai cherché à situer la notion d'humilité intellectuelle dans le cadre d'une reconversion de l'épistémologie. En contestant que ce qui importe est la justification des croyances et la limitation des prétentions cognitives, cette reconversion peut sembler radicale. L'épistémologie analytique moderne et contemporaine a en effet été centrée sur la question de la justification et celle de la limitation. Pourtant, cette reconversion n'est en réalité pas totale. Car il existe en effet une tradition philosophique d'une épistémologie des valeurs plutôt que des normes, dans la continuité de laquelle l'épistémologie des dons peut se placer. L'épistémologie des normes est la recherche des critères qui justifieraient nos croyances et d'une définition de la connaissance. Une épistémologie des valeurs tente de décrire ce qui perfectionne notre nature humaine rationnelle. Elle a été pratiquée, chacun à sa façon, par Platon, Aristote, Saint Thomas, Descartes même Descartes, Reid ou le cardinal Newman. On la trouve aujourd'hui chez certains philosophes analytiques. Or, l'humilité intellectuelle n'est pas une norme de la connaissance, elle n'en est évidemment pas une condition nécessaire et suffisante, c'est une valeur humaine, à défaut de laquelle nous n'accédons pas à l'intelligence des articles de foi, ni ne parvenons à bien comprendre comment notre compréhension du monde est possible. Je vous remercie.